7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous sommes à Niamey où s'est déroulé la semaine dernière au Niger le Forum international Jeunesse et Emploi Vert, le FIJEV, à l'initiative de l'OIF, la francophonie. L'occasion chez 7 milliards de voisins de donner la parole aujourd'hui à de jeunes entrepreneurs, anciens lauréats des éditions précédentes et puis aussi à ceux qui viennent au Forum pour la première fois avec l'espoir de remporter évidemment une subvention, mais surtout de faire des rencontres, d'échanger pour développer son projet d'entreprise. Je vous présente nos invités. Edem Dalmeda, togolais, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez Africa Global Recycling, qui est une entreprise de recyclage de déchets au Togo. Vous avez été d'ailleurs lauréat du FIJEV il y a 2 ans et cette année vous êtes venu comme sélectionneur dans le jury pour sélectionner les meilleurs projets. Et votre entreprise a parcouru beaucoup de chemin. Ça a été créé en 2013.
En 2013.
Dans un secteur qui pourtant ne fait pas rêver.
Absolument.
Les déchets.
Mais un secteur porteur pour le devenir de l'Afrique.
Et qui suscite en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, une véritable exaspération sur le continent de la part des voisins, du moins les voisins les plus conscientisés, comme on dit, à propos de la propreté des villes africaines. Alfari Bonkano, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes entrepreneur nigérien, également ancien lauréat pour votre entreprise de conservation d'aliments qui s'appelle
Alpha Enterprise.
Et YAB.
La tomate en poudre, c'est YAB.
C'est la marque, hein.
Oui, c'est la marque YAB.
Petit sachet de
justement.
Concentré de tomate en poudre, hein.
Justement.
Très utile pour faire des bonnes sauces. On va en discuter tout à l'heure. Kaitou Yen du Burkina Faso. Bonjour Kaitou.
Bonjour Emmanuel.
Votre produit, c'est la chenille.
Effectivement.
Commercialisation d'insectes comestibles. Vous faites partie des sélectionnés par l'Organisation internationale de la francophonie. Il y avait plus de 3500 dossiers. Vous avez été sélectionné parmi, donc, sur 200 jeunes qui ont été invités à Niamey. Vous venez pour la première fois au Forum.
Oui, je viens effectivement pour la première fois au Forum. Et je suis très content d'être là.
Jeannette Odou, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Ivoirienne.
C'est ça.
Alors vous misez sur le moringa.
C'est ça.
Moringa.
Moringa.
Pour des produits cosmétiques, c'est une plante pas très connue en Europe, hein, il faut bien le dire. Une plante dont les feuilles ont des vertus thérapeutiques, anti-âge. Vous utilisez vous-même vos crèmes, Jeannette ?
Oui, oui, je les utilise parce que pour mettre à la disposition des autres un produit, il faut l'utiliser soi-même.
En tout cas, le moringa est un produit qui intéresse de plus en plus de monde. On en discutera. 7 milliards de voisins, soyez les bienvenus. On est à Niamey.
7 milliards de voisins, on est au Niger, bienvenue.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Alors, je vais commencer un premier tour de table, les uns et les autres. Vos impressions sur le Forum, déjà la 4e édition du FIJEV, Edem Dalmeda.
Les jeunes sont toujours de plus en plus inventifs, puisque c'est très simple, le constat, c'est que chacun des mots aujourd'hui des MAUX de la planète est une opportunité d'affaires et de développement. C'est comme ça qu'on le vit et c'est comme ça que je l'ai encore vécu cette année à travers les dossiers qu'on a pu lire et sélectionner.
Ouais, alors à l'heure où on enregistre cette émission, Alfari Bonkano, puisque vous êtes vous aussi dans le jury, hein, avec Edem, ouais. Vous savez qui sont les 10 finalistes qui vont remporter la subvention de plusieurs milliers d'euros de l'OIF, hein, mais évidemment vous ne pouvez pas nous dire parce qu'ils ne sont pas encore annoncés à l'heure
justement.
Où on enregistre. Hein. Ouais. Mais quel est un peu l'esprit de ceux que vous avez distingués?
Bon, cette année, j'ai constaté qu'il y a une sorte d'avancement de la part des jeunes qui ont concouru d'un point de vue créativité. Ils comprennent mieux l'environnement de travail. Tu vas voir, la personne n'a que l'idée et que l'idée est très, très, très bonne et qu'il suffit d'avoir un appui et que tu vas voir que la personne va réaliser son projet.
Kaiti Woyen, vous, comment vous avez ressenti le forum? C'est la première fois que vous veniez, vous avez rencontré énormément de jeunes qui sont comme vous, qui essayent de monter un projet. Le vôtre a déjà démarré, on va en parler, mais évidemment, vous recherchez des subventions, des appuis, des conseils.
En voyant autant de jeunes mobilisés autour des questions de l'économie verte et des emplois verts, je me suis dit, waouh, Franchement, je n'ai pas perdu mon temps avec ces chenilles. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont des idées qui vont également dans ce sens. Et clairement, c'est ensemble qu'on va pouvoir bâtir ce continent-là.
Et pour vous, Jeannette Audou?
Je suis arrivée au FIGEF, j'ai vu des jeunes vraiment motivés. On a tendance à dire souvent que les jeunes ne veulent rien faire et tout ça, mais j'ai vu des jeunes qui ont envie de se battre pour sortir de la pauvreté.
Mais alors vous, par exemple, tous les deux anciens lauréats, qu'est-ce que le forum, le fait de gagner une subvention, de l'accompagnement, qu'est-ce que ça vous a concrètement apporté pour vos entreprises ?
Personnellement,
j'ai
démarré mon entreprise à partir du FIGEF 2014. Et maintenant, actuellement, nous avons commencé à générer de revenus. Je le dis à chaque fois que c'est à partir du FIGEF. Quand j'étais parti en FIGEF 2014, c'est avec l'idée d'entreprise et ils m'ont fait confiance. Et c'est pourquoi j'encourage beaucoup d'éditions dans ces sens. Du moment où il y a beaucoup de jeunes africains qui n'ont pas assez de fonds, ils ont l'idée, mais ils n'ont pas assez de fonds et que les banques ne leur font pas confiance du moment où c'est uniquement l'idée. Et parfois, leurs parents ne sont pas aisés pour les financer. Donc, à travers ces genres d'initiatives, il y a des jeunes qui partent et que c'est un décollage pour eux à jamais.
Moi, je voulais ajouter quelque chose. Je voulais dire qu'on a l'impression que la plupart de ceux qui ont un bac plus 4, bac plus 5, qui viennent dans l'entrepreneuriat, le viennent par dépit, parce que découragés quelque part de leur situation. Est-ce que celui qui a un bac plus 4, un bac plus 5, vient à l'entrepreneuriat par amour ou par dépit?
Eh ben, c'est une bonne question. On va d'ailleurs l'aborder. Comment vous êtes devenu entrepreneur? Comment vous avez eu l'idée de créer vos entreprises? Et surtout, comment vous vous êtes senti perçu et encore aujourd'hui par votre entourage familial et puis votre communauté? Reviennent sur vos histoires respectives. Edem Dalmeida, vous avez été finaliste de ce forum il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur reconnu au Togo. Votre entreprise de gestion des déchets a été créée en 2013. Je voudrais que vous nous disiez comment vous êtes devenu entrepreneur au Togo dans la gestion des déchets, vous, l'ancien cadre en France chez Suez Environnement.
Alors, j'ai eu effectivement un parcours chez Suez Environnement, puis un autre dans un autre groupe français qui s'appelle Samsic. Le fait de revenir en vacances au Togo, c'était en 2006, oui, je me suis dit, mais ce n'est quand même pas possible. J'étais revenu avec des amis et ça m'avait profondément déçu et marqué. Au point où j'ai refusé même de revenir en vacances pendant de nombreuses années. Donc, j'y suis retourné, en 2011. Et en 2011, avec ce que j'arrivais à faire en Europe, j'avais un réseau, j'avais un travail qui fonctionnait bien, je pense être reconnu dans mon travail, je me disais qu'il y avait 2 choses à faire. D'une part, qu'il était inconcevable que des modèles marchent ailleurs et ne puissent pas marcher en Afrique. Et puis la deuxième chose, je ne voulais surtout pas, et là c'était peut-être un élan patriotique, je ne voulais surtout pas que ce soit quelqu'un d'autre qu'un Togolais qui soit pionnier sur la question de la gestion durable des déchets avec de nouveaux modèles dans mon pays.
Ouais. Et tout spécialement, en plus, dans ce secteur, hein, les déchets, qui est, voilà, c'est pas un secteur de costume 3 pièces, hein, comme on pourrait dire.
C'est exactement ça. Nous avons, dans nos pays, et le système éducatif, le système social, fait que nous avons toujours une finalité, que ce soit après les études, mais en tout cas dans la construction de nos carrières, de finir avec un costume de ministre. Et c'est le seul costume qui a de la valeur. Et on a oublié d'inculquer aux gens, aux personnes, que le costume de l'éboueur a aussi une valeur. Et donc, mon rôle, ce que je porte aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a bien évidemment un autre costume. Et bien souvent, malheureusement, et ça, ce sont des questions qui m'agacent, c'est « Ah, tu es peut-être le prochain ministre de l'Environnement ». Non, ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse.
Bon, ben c'est clair, le message est clair.
Voilà. Je crois que... Il faut le dire, on n'entreprend pas pour devenir ministre. Dans ce cas, autant aller à l'ENA et puis il y a d'autres voies.
Dans l'autre sens, un ministre déçu peut devenir entrepreneur ou il est déjà gâté?
Je les invite, tous nos ministres, à devenir un peu entrepreneurs, peut-être qu'ils comprendraient un peu mieux les priorités, peut-être qu'on aurait certainement un peu plus d'humilité, peut-être que on vivrait la solitude que vivent la plupart des entrepreneurs pour mieux comprendre et adapter d'ailleurs les politiques et les décisions qu'ils ont à prendre.
Alors, en quelques mots, votre entreprise Africa Global Recycling, comment ça fonctionne? Vous êtes parti de quoi? De quels besoins? Bon, on ne va pas décrire les rues des villes africaines, je crois que ça c'est assez clair. La faillite des systèmes de ramassage d'ordures par les municipalités. Mais comment vous avez démarré?
D'abord, en Afrique, nous avons l'habitude d'apporter des solutions, que je qualifie toujours des solutions d'urgence, à des problèmes anciens pour lesquels on n'a pas analysé les causes de l'échec. Et donc, il a fallu trouver les causes de ces échecs, la question de la fiscalité, l'informel que nous mettons de côté, la responsabilité des bailleurs de fonds et des partenaires au développement, la difficulté d'associer des personnes de toutes les couches sociales. Et donc, notre objectif, en créant un centre de tri de déchets, c'était d'aller à la source des difficultés, mais aussi de faire, dans un nouveau modèle circulaire, de faire du déchet le point central d'un nouvel écosystème dans lequel nous allons allier agriculture, industrie, éducation. Nous avons démarré effectivement par les entreprises. Nous récupérons leurs déchets à la source, suivant un cahier des charges qui est défini. Notre particularité, je tiens rapidement à le préciser, c'est que nous nous attaquons à tous les déchets dès lors qu'ils sont valorisables et recyclables. Donc, nous ne faisons pas une spécificité plastique ou papier.
Papier, plastique,
métaux,
verre.
Nous allons très certainement aussi aller sur les matières organiques. Voilà, vraiment tout type de matières recyclables et valorisables qui sont envoyées sur notre centre de tri. Nous en sommes aujourd'hui à plus d'une cinquantaine de matières différentes qui sont triées sur notre centre de tri. Toujours sur un système de reporting où là, vous avez des personnes totalement formées qui vont trier, suivant aussi un cahier des charges qui répondent à des normes internationales.
Ensuite, vous avez des machines qui compactent.
Voilà, nous trions, nous conditionnons et ensuite nous allons envoyer vers des filières à l'étranger, principalement aujourd'hui à 80-90% vers l'Europe, ce qui est une véritable révolution.
C'est bien les déchets africains qui vont vers l'Europe, ça change un peu.
Qui redeviennent des produits finis qui reviennent en Afrique. Voilà.
Par exemple
Par exemple, du vieux papier que nous allons récupérer et qui va resservir à faire de la pâte à papier en Europe, pour redevenir des papiers, des bobines et autres qu'on va revendre.
L'originalité, c'est que vos clients chez qui vous avez ramassé les ordures vont récupérer une partie des bénéfices que vous vous faites en revendant ces déchets.
Oui, nous tordons le modèle qui laisse à penser que le déchet, c'est ce qui n'a plus de valeur. Donc, nous faisons du déchet, très simplement, une ressource. Ça reste des ressources secondaires, mais des ressources secondaires non négligeables pour certaines entreprises. Puisque la matière, le déchet devient matière première sur notre centre de tri, nous reversons une partie de la valorisation à nos fournisseurs de déchets. Voilà comment nous fonctionnons.
C'est-à-dire que vos clients, non seulement vous leur ramassez leurs ordures, mais en plus ça leur rapporte un petit peu.
Ah oui, dès lors qu'ils respectent le cahier des charges qui a été défini, ils deviennent des fournisseurs de déchets recyclables et donc des matières premières secondaires pour l'entreprise.
Ça, c'est à Lomé, le reste de la ville de Lomé, parce que vous êtes une goutte d'eau par rapport aux déchets dans la capitale togolaise.
Absolument.
Et en termes de tonnes d'ailleurs, de déchets ramassés par rapport à ce que produit la capitale.
Ça serait ridicule d'annoncer, je dirais, des chiffres à l'échelle de la ville de Lomé. Tout simplement, ça doit permettre à nos dirigeants de favoriser le cadre qui doit aussi permettre à l'éclosion de nouvelles initiatives
clairement,
de jeunes femmes.
Pour parler plus clairement, vous faites la démonstration criante à la municipalité de Lomé, à l'État, que c'est possible et que l'État ne fait pas son travail.
Mais que l'État ne fait pas son travail, en tout cas, il ne le fait pas assez. Parce qu'aujourd'hui, les difficultés que l'État ou la ville de Lomé, et vous savez, je vais vous raconter, si vous le permettez, en une seconde, lorsque je faisais la démonstration à un cadre de l'administration, celui-ci m'a répondu que je parlais par mes connaissances des sujets, et surtout, que de toute façon, ce n'était que le citoyen qui parlait. Mais monsieur, c'est un véritable mépris. Qui d'autre que le citoyen doit pouvoir vous parler? Donc, vous avez des modèles à des coûts prohibitifs qui ont été amenés dans nos pays sans être véritablement adaptés à nos modèles économiques, à nos modèles culturels. Et donc, nous faisons à notre échelle, pour vous faire un ratio, hein, nous en sommes à peu près à 100-150 tonnes de déchets recyclés par mois. Nous allons très vite, à la fin de l'année, arriver à plus de 400 tonnes mensuelles, puis une
400
belle
tonnes mensuelles.
Mensuelles de déchets. Nous sommes en train de mettre en place les moyens d'action. Donc, vous voyez, il y a d'ailleurs un autre modèle, c'est l'éducation. Nous avons initié un modèle éducatif qui instaure le tri sélectif dans les ménages, alors que les municipalités, depuis de longues années, alors que les bailleurs de fonds, alors que les grands spécialistes nous disent que le tri sélectif en Afrique n'est pas possible.
C'est pas possible culturellement.
Culturellement.
Ouais. Comment vous faites pour faire changer les mentalités?
C'est très simple. Nous avons initié un modèle qui s'appelle le « moi, je trie ». Parce que le tri doit devenir un jeu, un réflexe. Et nous avons dit qu'il manquait un maillon dans la chaîne de gestion des déchets. Et pour nous, ce maillon, c'était l'école, lieu d'éducation, de transmission de savoir, parce que c'est l'enfant qui rappelle aujourd'hui à ses parents qu'il ne doit pas téléphoner au volant, que le feu est rouge et qu'il n'a pas à passer. Et donc, nous avons mis en place, aujourd'hui dans 6 écoles, mais 5000 élèves, des collecteurs spécifiques de tri sélectif. Mais l'originalité du projet, c'est de dire aux élèves, ramenez vos déchets recyclés de la maison hebdomadairement à l'école.
Et vous faites travailler les enfants.
Et nous faisons travailler les enfants en respectant bien sûr les normes internationales. Donc ces déchets recyclables sont ramenés à l'école, mais il faut pour le centre de tri les collecter et les valoriser. Mais pour tout ça, il faut y apporter du sens. Donc, deuxième élément fondateur, c'est de dire à l'école, c'est d'identifier ensemble un besoin immédiat, soit au sein de l'école, soit dans votre territoire d'implantation directe, sur lequel vous allez impacter. C'est comme ça qu'avec le lycée français de Lomé l'année dernière, les déchets ont permis de financer un ordinateur, un poste informatique, puis une bibliothèque de quartier accueillant 250 enfants. Donc voilà des modèles très concrets de fonctionnement. Et si l'État nous permet d'aller plus loin, nous venons de lancer, ça je fais appel aux entreprises, je fais appel également aux décideurs, c'est que nous venons de lancer un vaste plan qui s'appelle « 100 écoles et moi je trie ». Ça veut dire que chaque année, nous nous efforcerons d'équiper 100 nouvelles écoles avec du tri sélectif et nous en faisons un outil RSE pour les entreprises qui souhaitent aussi impacter durablement dans leur communauté.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI du lundi au vendredi. Kaito Oyen, vous avez aussi fait le choix de commercialiser un produit qui n'est pas très valorisé, la chenille. Quoique, dans votre région, c'est un produit qui est très admis, qui est très consommé. Hein. Vous avez grandi à 300 km de Ouagadougou, au Burkina Faso?
Effectivement, j'ai grandi à 365 km de Ouagadougou, dans un tout petit village. Dans la région ouest du Burkina Faso, dans ce village-là, qui s'appelle Pana, les chenilles étaient collectées par des femmes et consommées quand nous on était petits. J'ai dit bien « étaient » parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chenilles malheureusement dans mon village, Il faut aller un peu plus loin pour en trouver.
Pourquoi il n'y en a plus ?
Il n'y en a plus parce qu'il y a eu des méthodes culturelles qui ont détruit en l'espèce. L'utilisation intensive des pesticides, l'utilisation des engrais chimiques, ça détruit en fait les larves des chenilles. Et aujourd'hui, il n'y a presque plus de chenilles dans les villages. Et moi, je consommais ces chenilles-là avec mon père, qui aimait ça beaucoup. Ma mère qui cuisinait, mais elle ne mangeait pas du tout. Moi, j'étais curieux, j'accompagnais mon père à manger ces chenilles-là.
Comment ça se mangeait quand vous étiez enfant? On les faisait bouillir?
Oui, on les fait bouillir, on les fait frire et puis on les utilise un peu comme le poisson. Mmh. Et d'ailleurs, on l'appelle le poisson de larve. Mmh. Très, très riche en protéines. Et on l'accompagnait avec du thon, du riz. Ou bien frit simplement, et puis voilà.
Alors, on ne parle pas de n'importe quelle chenille. Hein. Toutes ne sont pas comestibles.
Évidemment, on ne parle pas de n'importe quelle chenille. Celle-là, c'est la chenille de karité. Et le karité, c'est l'arbre, bien sûr, qui donne les noix de karité qu'on utilise pour faire le beurre de karité, qui est beaucoup utilisé dans le cosmétique. On l'appelle chenille de karité parce qu'elle ne mange pas autre feuille si ce n'est que les feuilles de karité.
Voilà. Comment vous êtes arrivé à ces chenilles empaquetés dans des petits sachets vendus comme des arachides, hein, finalement.
Effectivement, celles-là sont vendues comme, un peu comme des arachides. Et je suis arrivé en fait à ce projet-là parce que vous allez avoir l'occasion, bien sûr, de goûter. Dommage aux autres. Ils ne sont pas à côté.
Alors, on va faire passer.
Elles sont très poussiantes. Hein. Je sais que je n'ai pas le droit d'apprécier mes propres produits, mais bon.
C'est assez salé. Comment c'est assaisonné? Déshydraté?
C'est déshydraté.
Que ce soit craquant comme ça?
Et c'est frit en fait. Mmh. Et l'assaisonnement, c'est un peu notre petit secret.
C'est un petit goût d'algue. Hein? Bon. Vous êtes d'accord, non? Alpharine?
Bon, je prends. L'année passée, je l'ai acheté à plusieurs reprises.
Ah, vous avez déjà goûté? Je vous
sens
un peu.
L'année passée, je l'ai acheté à plusieurs reprises. Je l'ai même amené à la maison.
Jeannette?
Parce que,
non,
on ne le connaît pas.
Jeannette,
chez
nous. Jeannette? Allez, on se lance, Jeannette.
Voilà, elle adore, elle vient d'adopter les chenilles.
Ah, merci. Il reste plus qu'à payer.
C'est bien fait. C'est bien assaisonné, surtout.
Alors, pourquoi des chenilles? Pourquoi vous y croyez? Pourquoi ça marche?
Alors, la chenille, comme je vous ai dit, c'était mon histoire personnelle comme ça. Quelque chose que je mangeais tout petit alors que les autres enfants fuyaient. Parce que quand même, quand vous voyez une chenille vivante, ça fait un peu peur. Et moi, je ne sais pas, peut-être parce que à cause de cette histoire-là...
Ah, parce que vous en mangez vivante aussi?
Non, on ne les mange pas vivantes, mais dès que vous prenez la chenille, la barrière qui existe pour beaucoup de personnes, c'est qu'en voyant une chenille comme ça, dès qu'on dit chenille, ils voient la chenille en train de bouger. C'est un peu ça qui vient à l'esprit des gens quand on parle de chenille.
Bon, nous, on a les escargots en France, donc...
Et moi, j'ai découvert en fait ce potentiel nutritionnel de la chenille de qualité qui est connu comme un des produits locaux les plus protéinés au Burkina Faso, avec jusqu'à 63% de protéines. La chenille n'est pas seulement riche en protéines, elle est aussi riche en fer. Elle est riche en acides gras essentiels, les oméga 3, qui sont très très recherchés. Aujourd'hui, nous avons une capacité de production de l'ordre de 15 tonnes par an. Et nous vendons principalement au Burkina Faso, dans 24 localités du pays, à travers 365 points de vente à peu près.
C'est génial parce que les compléments alimentaires, pour répondre à la question de la réduction de la faim dans le monde, est porté par de jeunes entrepreneurs en Europe, avec les chenilles que nous avons sur le continent africain, avec le criquet. Je trouve là qu'il y a un potentiel extraordinaire qu'il faut absolument accompagner, et au-delà du Burkina. Donc, moi, je suis totalement... fan.
Alpharine Boncano, vous étiez dans le jury pour sélectionner, mais vous avez été un lauréat du Forum des emplois verts. Vous avez 31 ans, vous êtes ingénieur agronome. Vous avez vu les chenilles présentées par Keitou Oyen du Burkina Faso. Vous faites de la tomate séchée en poudre, déshydratée.
Oui.
Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je sais que vous avez également déposé un brevet pour un déshydrateur à charbon,
justement,
pour déshydrater beaucoup plus vite et réduire en poudre la tomate beaucoup plus vite.
Au fait, c'est une machine que nous avons inventée, que nous avons déposé un brevet d'invention auprès de l'EAPI, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous avons constaté que les systèmes de déshydratation, c'est-à-dire les machines, ils ont quelques défaillances qui existent. Par exemple, nous avons des sécheurs à gaz, nous avons des sécheurs solaires qui, le temps de séchage peut aller jusqu'à 2 à 3 jours. Et que les quantités à sécher ne dépassent pas parfois 5 kilos, 50 kilos. Donc nous, on s'est dit, bon voilà, pourquoi ne pas essayer de réunir tous ces avantages qui se trouvent au niveau des autres séchoirs, au niveau d'un seul séchoir qui n'a pas beaucoup d'inconvénients. Donc voilà, c'est pourquoi finalement on s'est tombé sur l'idée du séchoir à chaux minéral qui permet de sécher jusqu'à environ, le séchoir avec qui je travaille présentement a une capacité de 500 kilos et le temps de séchage est de 15 heures pour la tomate. Donc pour la tomate c'est 15 heures, mais pour les autres produits ça n'atteint même pas 15 heures. C'est une première. D'un point de vue national, nous sommes en train de voir avec les 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériennes, dans quelle mesure la vulgarisation de ces types de séchoirs peut être possible sur le plan national, que ce soit uniquement à mon niveau.
Alors pour le moment, vous ne parvenez pas à commercialiser votre séchoir, mais vous commercialisez bien sûr les petits sachets de poudre de tomate. Hein.
Justement.
Vous dites le Niger nourrit les Nigériens. Moi, j'ai quand même une question. L'Afrique est envahi littéralement par du double concentré, voire du triple, hein, je ne sais plus. En tout cas, du double concentré de tomates chinois.
Justement, nous avons étudié le marché. On a compris que, par exemple, au Niger, vraiment, on consomme beaucoup de tomates concentrées. Surtout ceux qui nous proviennent de la Chine, où sur 2 repas, c'est à la base de tomates et essentiellement la tomate concentrée importée.
Alors, dès qu'on cuisine, on met de la tomate.
Justement.
Pour agrémenter les légumes, le riz, tout ça.
Justement, on le met. Donc, nous, on s'est dit, bon, voilà, c'est-à-dire quelque chose de nouveau peut faire la différence. Vu que la tomate purement concentrée, et ça, c'est de la poudre, on s'est dit que ça peut faire la différence.
C'est plus facile à commercialiser, à transporter.
Justement, c'est facile à transporter et à commercialiser. Mais, c'est-à-dire, un peu plus loin, nous avons introduit aussi de la tomate concentrée que nous-mêmes nous fabriquons. Nous avons eu la procédure de fabrication de la tomate à partir de la tomate fraîche que nous coupons avec d'autres produits et qui nous permettent d'avoir vraiment de la tomate concentrée.
Il faut bien préciser que la tomate en Afrique, c'est un vrai problème parce qu'on ne sait pas la conserver et on ne sait pas la transporter. Et c'est un aliment qui est très fragile. Donc on gaspille, on gâte.
On gâte. Même l'idée de ce projet est née à partir de ça, le gaspillage. Chaque fois, en tant qu'ingénieur agronome, quand je passe ici au marché, je vois des grandes quantités de tomates qui se perdent par pourrissement et que sur le plan national, presque un tiers de la production nationale se perd.
Et parce vous avez que des super bonnes tomates en
justement,
plus.
On a des super bonnes tomates qui ont le vrai goût de tomates et aussi des très bonnes qualités.
Même constat chez vous, non, les uns les autres.
Justement, c'est ça. Et nous avons le même problème, avec le Burkina, le même problème de la tomate fraîche lors de la période de production. Tu vas voir le kilo qui passe parfois de 50 francs à 500 francs ou bien à 1000 francs.
Moi, je voulais ajouter quelque chose. Moi, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons la chance d'avoir un climat un peu plus clément. Et quand vous arrivez sur les différents marchés, vous allez voir des produits qui sont sous le soleil qui pourrissent à longueur de journée. Et si au niveau des jeunes entrepreneurs, si au niveau de nos décideurs, on pouvait quand même mettre à la disposition de ces jeunes-là les moyens de transformation, cela allait vraiment arranger les choses.
Est-ce que nous sommes condamnés à consommer sans produire? Ça, c'est une question qu'il faut enfin pouvoir se poser. Parce que, est-ce que nous avons besoin de plus d'idées aujourd'hui plutôt que de matériel?
On y revient dans quelques instants. Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins.
Ce soir, j'éteins l'impatience, je tromperai la vigilance de cette douleur qui m'assiège. J'apprivoiserai l'aurore, le cœur brûlant d'effort, d'avoir des jours et tant de pièges. Soyons tous ce que l'on a promis, soyons tous ce que l'on s'est promis. Okay. Soyons tous ce que l'on a promis, soyons tous ce que l'on s'est promis.
Yeah, yeah, everybody get there, rock the planet. Yeah, yeah, rock the planet. Tout le monde debout et rock the planet.
suis un monde échoué, je suis un monde à sauver, fait à l'échelle de tes mains. Les hommes sont comme des navires, conscients du danger, c'est dire la tristesse de notre destin. Soyons tout ce que l'on a perdu, soyons tout ce que l'on a cru, soyons tout ce que l'on a perdu, soyons tout ce que l'on a cru.
Yeah, yeah, everybody get there, rock the planet. Yeah, yeah, rock the planet. Tout le monde debout et rock the planet.
Rock the Planet chez 7 milliards de voisins. Nous enregistrons notre émission sur RFI à Niamey au Niger à l'occasion du forum des métiers verts organisé par l'OIF, la francophonie, qui s'est achevé ce forum la semaine dernière. Alors nous enregistrons l'émission, on ne connaît pas les résultats, le résultat final des 10 finalistes qui vont remporter une subvention bien sûr et puis un appui hein, pour monter leurs projets ou des projets qui ont déjà démarré, des entreprises qui vivent déjà, c'est le cas pour certains d'entre vous qui sont autour de cette table. Jeannette Audou, c'est intéressant vous pour le Moringa parce que vous êtes aussi dans une situation très difficile à l'heure actuelle.
Hein. Exactement. Moi je voulais soulever un point. Est-ce que les produits locaux, les produits faits par des jeunes entrepreneurs sont consommés par les populations locales. Moi, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Un entrepreneur vient avec son produit, mais la population va voir un produit venu de l'extérieur. Tout de suite, il va abandonner.
J'ai constaté quelque chose. Hein. Nous avons un problème d'emballage dans nos communautés. Par exemple, nous, c'est bon, mais la plupart d'entre ceux qui ont exposé ou bien d'entre des jeunes, ils ont ces problèmes d'emballage.
À quoi deux, précisément, là vous avez des petits sachets, tout va bien.
Oui, ça, c'est bien. C'est-à-dire, puisque nous l'avons jusqu'en Chine, hein, pour que le produit soit concurrentiel.
La machine pour en sachet, vous l'avez achetée en Chine?
Même la machine, je l'ai achetée en Chine. Il le faut parce que pour
mais pour l'emballage, si je c'est dis une que, machine à en sachet chinoise ouais.
Si je lui dis que l'emballage là, je vais l'acheter ici au Nigeria ou bien au Ghana, ça là, je ne pourrais pas le vendre à 50 francs. Il faudrait que je le vende à 100 francs pour que je m'en sois. Alors que le pouvoir d'achat des Nigériens est assez faible. Oui. C'est-à-dire que nos populations, ils aiment trois choses au niveau de n'importe quel produit. La première des choses, j'avais parlé sur la qualité du produit. Et la deuxième, c'est l'emballage. Et la troisième, le coût. C'est-à-dire si la qualité est là, par exemple...
Qualité, emballage et prix, et prix accessible.
C'est-à-dire le produit s'est acheté.
Oui. Il y a la culture.
Exactement. Exactement,
il y a la culture et malheureusement, en Afrique, ou peut-être ailleurs, mais en tout cas plus particulièrement sur notre terrain africain, nous voulons du changement sans penser le changement. Nous voulons être constamment devant avec notre frein culturel. Nous n'avons pas envie de changer de nos habitudes de boîte de conserve, d'où on ne sait même plus quelle est
la provenance
ou bien la contenance en vraie tomate. Et voilà quelqu'un qui fabrique de la tomate, mais oh là là, monsieur, ça c'est de la poudre, mais c'est exactement la même tomate, mais moi je préfère celle qui vient de Chine. Mais l'analogie que je veux faire, c'est par rapport au problème économique qui reste entier. Voilà la démonstration, Alfari vient de le faire. Il vient de poser quelque chose, moi, qui montre que la question économique ou de la fiscalité reste entière. Tout le monde nous parle de protectionnisme. Je ne suis pas adepte du protectionnisme. Je suis très libéral. Mais comment voyez-vous quelqu'un qui finance à quelques milliers de kilomètres d'ici son usine, sa production à hauteur de 1%, à 2%, à 3%, qui ne paye pas d'impôts ou en tout cas qui est aidé pour exporter et développer son business à l'extérieur. Et vous avez un entrepreneur local qui, lui, est taxé à 120%, qui doit payer des taxes extraordinaires, qui en plus a la difficulté, parce qu'il est dans son pays, d'être contraint plus que les produits qui doivent venir de l'étranger.
Je suis désolée, mais à l'heure actuelle, tout le monde s'en fout parmi les consommateurs.
Mais le problème, c'est ça. On ne peut pas jeter la pierre aux consommateurs. On ne peut pas, et ça rejoint ma question de la misère, on ne peut pas dire aux consommateurs qu'il n'a pas le pouvoir d'achat et qu'il faille acheter plus cher quelque chose parce qu'il répond à son problème de santé. Mais par contre, on a la possibilité de mettre en place des mesures d'accompagnement, des mesures incitatives, où il revient plus facilement de faciliter un développement de l'entreprise d'Alfari plutôt que de faciliter des containers qui arrivent d'ailleurs.
C'est vrai que la question économique joue, mais pas dans tous les cas. Par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, plusieurs personnes ont un certain pouvoir d'achat. Mais vous lui présentez une tomate, un savon qui est fait à Abidjan, un savon de Moringa qui coûte peut-être 1000 francs, mais le monsieur ou la dame va plutôt prendre un savon de Moringa qui vient de l'extérieur, peut-être même de Chine, à 2000, 3000, voire 4000. Pour l'Ivoirien, ce qui vient de l'extérieur est meilleur. Donc, ça n'encourage pas vraiment les entrepreneurs.
C'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Le problème est général. Au Burkina, c'est la même chose.
Mais quand même, je fais cette remarque. Hein. Les trois qualités, très souvent, ça va te permettre à ce que ton produit soit, même si ce n'est pas totalement au concurrence.
C'est ça. Est-ce que ça ne vient pas historiquement quand même d'une faible teneur en qualité des produits locaux?
Je ne crois pas.
C'est en train de changer. Mais...
Je ne crois pas que ce soit lié à la qualité des produits locaux. Je pense tout simplement que c'est une question d'éducation. Et c'est ce que Thomas Sankara avait dit, qu'il faut produire local et consommer local. Alors, produisons d'abord pour les Africains. Le marché africain, on ne peut pas produire des produits en Afrique pour d'autres personnes ailleurs et prendre des produits d'ailleurs pour venir nous nourrir. Ce n'est pas possible. On doit produire et consommer africain.
Ce que Emmanuel dit sur la question de la qualité, j'adhère totalement. Est-ce qu'on a besoin de plus d'idées ou de plus de moyens? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez acheter du jus de fruits, on vous le vend dans une bouteille d'eau qui a déjà été utilisée. C'est ça le problème.
Mais ce que je veux dire, la qualité, elle est quand même relative. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une démarche de mondialisation, de globalisation. Ça fait que, quel que soit là où vous produisez, en tout cas pour un produit alimentaire, vous êtes obligé en fait de vous adapter à ces normes-là. Et pour moi, la qualité, pour nous en Afrique ici, la qualité, c'est une chose. Un produit sain qui ne rend pas les gens malades. C'est
Mais
ça la qualité.
Quand vous demandez
aux jeunes Africains,
oui.
Pourquoi vous préférez un produit qui vient de la Chine par rapport à un produit ou des États-Unis par rapport à un même produit, peut-être même avec plus de qualité, en tout cas pour nous qui comprenons ce que c'est que la qualité, il va vous dire simplement, ça vient des États-Unis et les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. C'est une image de marque en fait. À cause de ça, le produit est forcément de bonne qualité. C'est une fausse image, c'est une fausse information en tout cas moi, à mon niveau. Justement. Parce que nous sommes dans une démarche de globalisation et moi, j'ai le souci de protéger mes consommateurs. Je ne peux pas produire un produit pour tuer ceux qui sont censés payer le produit.
Ça, tu as raison sur ce point-là. Puisque tu vas voir sur l'emballage d'un produit qui vient d'ailleurs, on va dire bio ou bien c'est naturel, alors que c'est à 20% ou bien à 15%. Alors que vous faites à 90% naturel, vous dites que c'est 10% qui n'est pas naturel, on va dire, ah ça c'est un produit chimique.
Moi je vais acheter quelque chose, on ne vous pardonne rien.
C'est très dommage.
On ne vous pardonne rien et parallèlement, c'est vrai qu'acheter les certifications, ça coûte très très cher pour
justement.
Vous aussi. Hein.
Exactement.
Oui, mais, attendez,
donc il y a un problème de confiance.
Ouais. Vous avez des décideurs ou des gouverneurs qui mettent en place ou qui semblent dire qu'il faut faire du bio, qui est une vaste escroquerie intellectuelle dans nos pays.
Ça, c'est certain.
Mais on va jusqu'au bout. Et on dit on fait des bio, on fait tel ou tel produit parce que ça répond à l'insécurité.
Vous dans pensez le même par temps, exemple aux plantations de café qui sont des toutes petites exploitations et qui sont évidemment bio, mais qui peut se
dans
payer
le
label.
Dans le même temps, à toutes les foires alimentaires dans nos pays, vous voyez des gens qui sont là et qui vous disent qu'ils vous fabriquent telle ou telle plante médicinale, on ne sait pas comment ça a été fabriqué, et qui bloquent des reins alors que il n'y a eu à aucun moment des normes qui ont été mises en place puisque l'État lui-même n'est pas capable de mettre en place ces critères
chose.
Ou de les contrôler.
Je constate que depuis longtemps que l'Africain a un complexe d'infériorité chronique. Déjà pour les savons. Au début, quand je proposais...
Au savon de Moringa,
oui.
Un petit arbre, vous broyez les feuilles, elles sont séchées, ça a des propriétés dermatologiques.
Exactement.
Je fais passer le savon autour de la table.
C'est fait entièrement à la main, des feuilles fraîches.
Ça sent la feuille, d'ailleurs, pas le parfum chimique.
Non.
Tout à fait.
Lorsque je proposais mes produits aux dames, elles me disent, est-ce que ça rend clair?
Est-ce que ça éclaircit la peau?
Est-ce que ça éclaircit la peau? J'ai dit non, c'est un savon qui est nourrissant. Elles me disent non, on n'a pas besoin de nourrir notre peau, on a besoin de blanchir notre peau. Et pendant 3 mois, j'ai été confrontée à cela. Des femmes disent, on va prendre à crédit, si ça va, on te paye après. Et c'était comme ça, le phénomène de blanchiment de la peau. Il a fallu que je réfléchisse autrement, que je mette un réseau de femmes sur place pour aller convaincre des femmes dans leur ménage pour que mes produits sortent. Et c'est vraiment dommage.
Pardonnez-moi de revenir encore à ma question. Dans ce cas,
d'accord.
Et cette question, c'est peut-on continuer à lutter contre la misère en l'entretenant? Prenez ce terme uniquement pour de l'analogie. Là, si je prends ce que Jeannette dit sur la question de la dépigmentation, voilà l'OMS, voilà nos ministères de la Santé pour cocher des cases, mettre en place de vraies questions sur la dépigmentation de la peau. Dans le même temps, nous avons des usines entières qui ont pignon sur rue, à qui on donne des facilités de taxes, de douanes pour s'implanter dans nos pays et qui nous fabriquent que des produits extraordinairement toxiques.
Au début, j'ai failli abandonner parce que c'était vraiment compliqué. C'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et au point où certaines personnes me disaient, mais qu'est-ce que tu attends? Les dames veulent des produits éclaircissants, ajoute des produits dedans et puis tu vas vendre, tu as besoin de l'argent. Je dis non, je vais rester sur ma gamme et ça ira. Et grâce à cette approche-là, j'ai pu quand même faire quelque chose.
Quand on vous écoute tous les quatre, jeunes entrepreneurs, vous faites face à des difficultés pour les uns qui sont encore d'ailleurs assez insurmontables. Hein. Pour d'autres, ça y est, ça, vous êtes lancés, il y a une vitesse de croisière comme vous, Edem. Est-ce que vous pensez que là, avec les générations qui arrivent, avec l'extraordinaire dynamisme aussi des démographiques du continent africain, les mentalités vont changer plus vite qu'on ne pense? Il va y avoir réellement une prise de conscience sur l'entrepreneuriat. Quand on voit aussi les freins que vous avez connus dans vos familles respectives pour certains d'entre vous. Je sais que ça a été très difficile, pas pour tous. D'autres vous avez été aidé par Alfari, par votre famille. Jeannette, ça a été très mal vécu par votre papa, le fait de devenir entrepreneur. Quand vous voyez les jeunes qui, pour certains, sont prêts à mettre la même somme qui pourrait servir à créer une boîte pour traverser la Méditerranée, vous êtes pessimiste, vous êtes optimiste? Jeannette.
Moi, je dirais que le jeune est pressé. Pour le jeune, quand il l'entreprend, il veut toujours, dans la même année, avoir des millions de bénéfices, ce qui n'est pas possible. Il faut être patient. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que ce n'est pas seulement celui qui a un bac plus 4 ou un bac plus 5 qui peut devenir entrepreneur. On devient entrepreneur par amour et non pas par dépit. Quand on aime, on est patient. Et là, c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes.
Alpha et Boncano, le mot de la fin, puis peut-être aussi un message pour les jeunes qui nous écoutent.
Je pense que de 2014 à aujourd'hui, il y a eu une évolution.
Hier, j'ai visité des stands et que c'est très différent de ce que nous avons vécu en 2014. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont vraiment développés, qui ont des produits finis, qui ont besoin seulement d'aide financière et puis d'avancer. Donc, l'appel que je lance aux jeunes en général, c'est-à-dire de toute l'Afrique, c'est essayer de faire tout. C'est un combat. La vie n'est qu'un combat. Entreprendre est la meilleure des choses que la personne peut effectuer de bon.
Kaito Oyen.
Alors, moi, je...
Producteur de chenilles au Burkina Faso.
Effectivement. Moi, je suis très, très confiant quant à l'avenir de l'Afrique. Sa jeunesse, aujourd'hui, est très, très dynamique, se bat, est consciente des difficultés, parce qu'il faut être d'abord conscient d'une difficulté avant de trouver des solutions. Et aujourd'hui, la jeunesse est engagée vers cette solution. Encore faut-il que ce soit accompagné d'une bonne volonté politique. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec mon ami Edem qui disait malheureusement qu'il ne voulait pas devenir ministre de l'Environnement. Parce que si vous avez des bonnes idées comme ça, c'est là aussi qu'il faut faire de la politique pour accompagner tout cela. Et aujourd'hui, les jeunes fuient la politique. Les jeunes ont des idées, ils fuient la politique. Il faut que cette dynamique entrepreneuriale soit accompagnée par une bonne volonté politique. Et c'est là que les choses vont vraiment marcher pour l'Afrique.
Alors vous dites aux jeunes, entreprenez et politisez-vous.
Exactement, entreprenez. Et si vous avez l'occasion d'être ministre, de rentrer dans la politique, rentrez dans la politique. Aujourd'hui, Donald Trump est président des États-Unis. Il est un grand entrepreneur.
C'est
pas une grande référence, j'en suis sûr. Mais je veux simplement dire que les intellectuels, malheureusement, en Afrique, ne s'orientent pas en politique. Et on se trouve gouverné par une classe qui ne comprend pas du tout ce que c'est que le développement et qui n'ont aucune volonté, en tout cas, dans ce sens.
Edem Dalmeda.
Alors moi, je suis profondément optimiste.
En deux mots.
En deux mots, je fonctionne toujours par triptyque, vous me le permettez. La première, c'est « Il n'y a rien de tel qu'un rêve pour créer le futur ». La deuxième, c'est une citation de Peter Drucker, célèbre économiste, qui dit que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et enfin, cette troisième phrase, qui est quelque chose qui devient presque une religion, c'est cette phrase qui est pour moi la phrase la plus dangereuse du monde, c'est « on a toujours fait comme ça ». Donc, à partir de ce moment où nous avons ces trois éléments, je suis sûr que nous y arriverons, puisque je considère qu'on est dans une phase de transition et qu'inévitablement, il y a un cycle qui se termine et un nouveau cycle qui démarre.
À retenir la phrase la plus dangereuse du monde, on a toujours fait comme ça. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous. Merci aussi à l'équipe.
Merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute.
Merci à l'équipe des 7 milliards de voisins. Jérémy Bessé à la réalisation et à la technique. Cécile Lavolo, chasseuse d'invités de talent pour l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions, bien sûr, les deux émissions à Niamey et toutes les autres sur l'application RFI Pure Radio. Demain, 7 milliards de voisins, comme un prolongement, vous avez rendez-vous avec le coach Didier Akwété pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, transformer le continent. Vous nous appelez dans cette émission pour dialoguer avec Didier Akwété qui vous écoute, qui vous conseille, à condition évidemment d'avoir des projets déjà bien préparés ou de toutes petites entreprises qui butent sur des difficultés. C'est un rendez-vous mensuel. Et j'en profite aussi pour vous signaler, les voisins, que désormais, chaque lundi, on va donner la parole à l'Afrique qui gagne. L'Afrique qui gagne, pour moi, elle est vaste, elle est inventive. Vous venez de l'évoquer, hein, d'ailleurs. Vous avez illustré l'Afrique qui gagne aujourd'hui, tous les quatre. Merci à vous. Chaque lundi, donc, on suivra un parcours, une histoire, des solutions pour faire avancer le continent, mais sans se mentir aussi, hein, parce que c'est pas tous les jours facile. À demain, avec le coach, chez 7 milliards de voisins, dans quelques instants, une heure d'information sur RFI.
7 milliards de voisins, c'est fini. Bon retour à Paris!